Alors nous allons écouter Patrick Henriet, hein, qui vient de publier une grande histoire de l'école pratique des hautes études, et avec qui nous avons eu un colloque à l'automne sur les rapports entre l'école pratique et le Collège de France, entre lesquels il y a eu beaucoup de chevauchements. Et vous avez le document qui circule pour l'écouter parler de la création de la chaire d'histoire des religions et du rapport de Jules Souris.
Bon, je voudrais commencer par remercier M. Compagnon et Céline Surprenant pour cette invitation qui me permet de prolonger un peu un certain nombre de réflexions ou de recherches entamées dans le cadre des 150 ans de l'EPHE, qui avait vu la publication d'un gros livre collectif sur l'histoire de l'EPHE, suivi ensuite, donc à l'automne, d'un colloque qu'avait organisé Jean-Luc Fournet sur les relations entre EPHE et Collège de France. Et de fait, je crois que la quasi-totalité des noms propres, à l'exception des savants étrangers, la quasi-totalité des noms propres que je vais prononcer dans cette intervention renvoie à des gens qui ont été à la fois professeurs au Collège de France et, à un moment ou à un autre, directeurs d'études à l'EPHE, ou en tout cas qui sont mêlés aux deux histoires qui sont effectivement très, très liées. Je voudrais aussi, peut-être en introduction... faire un petit exercice, même s'il est classique, de captatio benevolentiae. J'ai été contacté relativement tardivement, et par conséquent, j'ai fait ce que j'ai pu, bien entendu, non pas sur un rapport, mais sur deux rapports. Mais je terminerai cet exposé en donnant toute une série d'indications sur des documents qui existent, dont je connais l'existence, parfois au moins partiellement le contenu, mais que je n'ai pas encore pu examiner, parce qu'ils sont généralement inédits. Donc, si vous voulez, je donne l'état d'une recherche qui n'est pas totalement achevée, il faut le préciser tout de même, mais j'espère qu'elle le sera dans les mois qui viennent. Alors, la chaire d'histoire des religions. Cette chaire est fondée donc au Collège de France en 1880, et c'est une création qui s'est accompagnée de très importantes polémiques auxquelles je vais faire allusion dans quelques instants. Quelques mots sur l'histoire de cette chaire. Elle a été successivement occupée par Albert Réville, dont on va assez longuement reparler, de 1880 donc à 1906, puis par le propre fils d'Albert Réville, Jean Réville, en 1907-1908. Il est mort très jeune, j'en redirai un mot. Le troisième titulaire a été est tout à fait célèbre, puisqu'il est associé bien sûr à la crise moderniste, c'est Alfred Loisy, entre 1909 et 1932. Puis Jean Baruzy, spécialiste de Jean de la Croix et du mysticisme, entre 1933 et 1951. Et enfin, dernier titulaire, si je ne dis pas de bêtises, Henri-Charles Puech, le spécialiste du gnosticisme, entre 1952 et 1972. Et à cette date, l'intitulé disparaît, ou plus exactement, deux chaires ont été créées et dérivent de cette chaire d'histoire des religions. Elles sont créées en 1975, celle de Jean Delumeau, Histoire des mentalités dans l'Occident moderne, 1975-1994, et celle de Jean-Pierre Vernant, Études comparées des religions antiques, 1975-1984, pour Vernant. Avant d'en venir au rapport qui circule, peut-être que tout le monde n'en aura pas un exemplaire, mais à deux ou trois, vous pourrez suivre les deux rapports dont je vais parler. Donc avant d'en venir au rapport, je crois qu'il faut dire quelques mots du contexte de 1880, ou plutôt des années 1880, avec cette notion d'histoire critique ou d'histoire scientifique, mais à l'époque on dit généralement histoire critique, des religions. Faire de façon critique donc l'histoire des religions, et non de la religion... Donc une histoire qui ne privilégie pas nécessairement le christianisme, ça n'est évidemment pas du tout anodin en 1880. C'est un moyen plus ou moins affirmé de combattre l'emprise de l'Église et d'affirmer la laïcité au plus haut niveau, bien entendu, puisqu'il s'agit du Collège de France. Donc il faut resituer la création de cette chaire en 1880 dans son contexte, ce contexte étant donc celui de l'introduction en France, qui de ce point de vue-là n'est pas pionnière, mais de l'introduction en France d'une histoire comparée des religions, soustraite à toute visée confessionnelle. En théorie en tout cas, parce qu'on peut aussi, il est vrai, envisager l'anticléricalisme de la fin du XIXe siècle sous un angle confessionnel. En tout cas, ça n'est pas absurde lorsqu'on examine attentivement les positions d'un savant tel que Jules Souris, dont je vais dire quelques mots, et aussi celles de ses soutiens politiques. Trois ou quatre dates montrent que la création de cette chaire, quatre ou cinq, constitue un acte inaugural, cette création en 1880, dans une séquence qui s'étend sur un petit nombre d'années, en gros de 1880 à 1886. Je remonte un tout petit peu en amont, 1877, ouverture à Paris de la faculté de théologie protestante, donc luthérienne et réformée, qui défend un protestantisme libéral très proche des positions qui vont l'emporter lors de l'élection de 1880. 1880, donc, la chaire du Collège de France. 1880 aussi, la création de la Revue de l'Histoire des Religions, qui est fondée à l'initiative d'Émile Guimet, celui du musée, le premier directeur de cette revue étant Maurice Verne. Et la même année 1880, création aussi de la Revue des études juives, dans un esprit assez comparable à celui de la Revue de l'Histoire des Religions. Deux revues, d'ailleurs, elles aussi, très, très liées directement à l'École pratique des hautes études. En 1877, pour bien comprendre l'idéologie, si je puis dire, qui porte ces créations, en 1877, Maurice Verne, qui sera par ailleurs candidat malheureux par la suite à la chaire d'Histoire des Religions du Collège de France, en 1877, Maurice Verne avait écrit ceci: « À la science théologique qui assujettit les faits et leur développement au système » et substituer la science religieuse, curieuse avant tout, de la connaissance exacte de l'histoire. Date suivante, 1885, le musée Guimet, qui avait été fondé à Lyon en 1880, est installé à Paris, et le musée Guimet aura un rôle important, au-delà même des études asiatiques, par une série de conférences, de publications, etc., dans ce développement d'une histoire non confessionnelle des religions. Et enfin, dernière date, 1886, c'est la fondation de la cinquième section de l'École pratique des hautes études, qui bénéficie à ce moment-là des crédits qui étaient alloués jusque-là à la faculté de théologie catholique de Paris, faculté qui est supprimée l'année précédente, en 1885. Dans toute cette histoire et dans toute cette séquence chronologique, on retrouve les mêmes noms, les mêmes hommes. Alors, j'avais à l'origine pensé présenter un rapport, celui de Jules Souris, que j'ai retranscrit ici, et puis commençant à faire un petit peu mes recherches et profitant de la grande richesse du site Salamandre, j'ai découvert qu'il y avait un deuxième rapport disponible pour la création de cette chaire d'histoire des religions, et donc je vais le présenter aussi, même s'il me pose évidemment un certain nombre de problèmes, à commencer par le fait qu'il est anonyme. Mais avant d'en venir à ces deux rapports, je voudrais souligner le fait qu'on a quand même des rapports qui ont un statut très particulier. Tous deux datent donc de 1879. On est dans les prémices, dans la période préparatoire à la désignation d'un professeur sur cette chaire qui aura lieu en 1880. On n'a pas de date plus précise. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces deux rapports ne sont pas conservés dans les archives du Collège de France. Ils sont conservés aux Archives nationales. Pour une raison très simple, ils avaient visiblement été communiqués à Paul Bert, qui était alors député, qui serait ensuite ministre de l'Instruction publique, mais qui est alors député, et qui, avec Gambetta, est, je dirais, le responsable politique de la création de cette chaire. Or, Paul Bert et Gambetta avaient un candidat, qui était Jules Souris, même si ce n'est finalement pas Jules Souris qui a été nommé, puisque le ministre, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est Jules Ferry, le ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry a finalement lâché Jules Souris. On verra brièvement tout à l'heure pourquoi. Ces deux documents ont donc un statut très particulier. Ce sont bien, d'une certaine façon, des rapports de présentation, mais ce ne sont pas nécessairement des rapports de présentation rédigés par des professeurs du Collège de France, et ce sont des rapports de présentation qui ne figurent pas dans les archives du Collège de France, mais dans celles d'un homme politique, qui était lui-même un scientifique, mais enfin d'un homme politique en tant que, dans ses archives en tant qu'homme politique, et donc aujourd'hui aux Archives nationales. Donc, sinon, ce sont deux rapports. Je pense que les deux auteurs avaient eu des instructions précises qui ont à peu près exactement la même longueur, comme vous pourrez le voir en les feuilletant ici, qui ont à peu près la même longueur et qui, classiquement, je dirais, définissent le champ scientifique de la chaire à créer avec un certain nombre d'informations d'arguments tout à fait intéressants. Quelques mots sur l'auteur de chacun de ces rapports, car dans aucun des deux cas, dans les deux cas, disons, c'est tout à fait intéressant. Dans le premier cas, c'est tout à fait anormal, bien entendu, puisque l'auteur du premier rapport est Jules Souris lui-même. C'est le rapport qui a pour titre la chaire d'histoire des religions au Collège de France, état et nature de cet enseignement dans l'Europe, caractère de cet enseignement en France. Ce rapport est donc signé de Jules Souris, ce qui veut dire que c'est le candidat pressenti qui a rédigé lui-même le rapport de présentation. Hein ? Donc évidemment, il faut lire le rapport à cette lumière. Hein ? Pour ce qui est du deuxième auteur, problème, c'est celui qui a donc pour titre « Note sur l'utilité de la représentation de l'histoire des religions dans le haut enseignement ». L'auteur de ce second rapport est anonyme. Alors, je ferai une hypothèse tout à l'heure sur celui que je crois pouvoir être l'auteur, mais je n'ai absolument pas de certitude. Et il y a au moins un élément graphologique qui m'ennuie beaucoup, ce qui fait que j'étais tout content d'avoir trouvé. Je suis maintenant moins content, mais je crois quand même que ça pourrait être lui. J'en dirai un mot tout à l'heure. Un autre élément intéressant à propos de ce deuxième rapport, alors j'ai pas fait, mea culpa, et je m'en excuse, j'ai pas sorti le cliché pour faire un PowerPoint, donc je vais décrire ce que vous auriez pu voir. Ce deuxième rapport comporte un certain nombre de ratures et de corrections, ce qui peut surprendre dans un rapport qui a visiblement été commandé par un député chargé de mener à bien la création de ce poste. On peut imaginer plusieurs explications. Je voudrais en proposer une qui me semble intéressante parce qu'elle rejaillit sur le statut des deux rapports et pas seulement sur celui du rapport anonyme. En effet, dans une lettre qui est sans doute adressée au directeur de l'enseignement supérieur à cette époque, Paul Bert lui-même fait allusion au rapport de Jules Souris, donc celui que vous avez ici certainement, et il fait allusion au rapport, je cite, que lui aurait lu Jules Souris. Donc il s'agit sans doute du texte qu'on va commenter brièvement dans quelques instants. En d'autres termes, de même qu'aujourd'hui, dans d'innombrables commissions de recrutement de spécialistes, etc., Paul Bert semble avoir, selon des modalités exactes qui nous échappent, mais je fais en tout cas l'hypothèse que Paul Bert a sans doute auditionné un ou plusieurs rapporteurs. Et ce n'est qu'ensuite que les rapports ont sans doute été confiés pour archivage à son secrétariat. Donc on comprend que l'auteur du second rapport ait produit un texte retouché, raturé, puisque ce texte qu'il avait sous les yeux était prioritairement destiné à être lu non pas par son interlocuteur, mais par lui-même devant son interlocuteur, ce qui n'est pas la même chose et ce qui lui permettait d'avoir un texte beaucoup moins soigné. C'est une hypothèse, en tout cas, j'en ai pas d'autre pour l'instant. Pour ce qui est de l'auteur, j'y reviens donc tout à l'heure. Mais auparavant, commençons par le rapport de Jules Souris, bien entendu. Alors, que je ne vais pas lire intégralement, mais j'y ferai allusion, je le résumerai, et évidemment, j'essaierai d'en tirer un petit peu l'intérêt principal. Donc, le rapport qui a pour titre la chaire d'histoire des religions, etc., etc. Quelques mots d'abord pour présenter brièvement Jules Souris, en tout cas pour le présenter jusqu'en 1880, et je redirai quelques mots de la carrière de Jules Souris après 1880, mais dans la dernière partie de mon exposé. Donc, les dates de Jules Souris, 1842-1915... Jules Souris est un chartiste, c'est par ailleurs un élève de Renan, à l'époque où Renan avait été exclu du collège, suspendu de ses cours au collège, et surtout, c'est aussi quelqu'un, ce qui lui donne un profil tout à fait original et intéressant, c'est aussi quelqu'un qui a fait des études médicales et qui a étudié la neurologie à la Salpêtrière. En 1879, au moment donc de ces négociations, il n'a pas de position bien assise, sinon un poste tout à fait subalterne à la Bibliothèque nationale, un poste tout à fait secondaire et très mal payé. Mais il a déjà publié différentes études de psychologie historique, dont l'une toute récente l'a rendue relativement, c'est pas comparable à Renan, mais l'a rendue relativement célèbre en faisant un beau scandale. C'est le livre qui a pour titre « Jésus et les évangiles » et qui est publié en 1878. Pour comprendre à la fois le scandale et l'orientation scientifique, mais plutôt même idéologique, de Souris, de ce point de vue-là en tout cas, le début du, je donnerai le début du livre, qui commence par cette formule « Après Dieu et l'homme, le malade ». On est donc dans un livre sur Jésus et les évangiles. « Après Dieu et l'homme, le malade ». En d'autres termes, après le Jésus des théologiens catholiques, c'est-à-dire Dieu, et après celui de Renan, c'est-à-dire l'homme, eh bien celui de Jules Souris, de l'auteur, c'est-à-dire celui de la psychopathologie, le malade. L'une des formules qui fait scandale dans ce livre, et je crois qu'il faut s'accrocher pour l'entendre, l'une des formules qui fait scandale dans le livre de Souris, c'est celle-ci, à propos de Jésus. « Il disparut à temps de ce monde, le gibet lui épargna la démence ». Souris est donc le représentant d'une conception de la religion comme une pathologie qui aurait permis, s'il avait été élu à Paul Bert et à Gambetta, de faire de cette chair une sorte de machine de guerre contre la religion et ses méfaits en général. Je ne vais pas au-delà pour l'instant dans la présentation de Souris, mais je rappellerai tout de même qu'à partir de 1881, et on verra pourquoi à la fin de l'exposé, à partir de 1881, il sera maître de conférence à la quatrième section de l'EPHE et qu'il devint par la suite, c'est le plus connu dans son parcours sans doute, qu'il devint par la suite un antisémite absolument féroce, ce qu'il n'était pas particulièrement au moment qui nous occupe. Alors selon Renan, j'ajoute que selon Renan, et un document auquel je ferai allusion en fin d'exposé, selon Renan, l'idée de créer la chaire du Collège de France sur une histoire comparée, disait Renan, des religions, cette idée serait venue de Souris lui-même lors d'une conversation avec Gambetta. C'est ce que rapporte Renan dans une lettre assez fameuse à Max Müller. Je n'ai pas le temps donc de lire l'intégralité du rapport de Souris, que vous pouvez parcourir, mais je le résumerai brièvement. D'abord, Souris insiste sur le fait que la science des religions, dit-il, c'est une expression qu'il utilise, la science des religions est une discipline étrangère. Et pour preuve, il donne une liste absolument impressionnante qui occupe une grande partie de son exposé, une liste de 54 noms de savants qui, au XIXe siècle, se sont illustrés dans ce domaine, donc depuis le début du XIXe siècle. Et dans cette liste de 54 noms, il ne cite que 3 noms de savants français qui sont tous, à ce moment-là, morts. C'est-à-dire Anquetil du Perron, Champollion et le baron Eckstein. Je précise que un travail indispensable pour comprendre ce que veut dire Souris, c'était évidemment l'identification de tous les savants, souvent bien oubliés, auxquels il fait allusion. Donc j'ai donné en annexe du rapport, vous l'avez à partir de la page 5, j'ai donné en annexe une sorte de petit dictionnaire, de classement en tout cas par ordre alphabétique, des 54 savants cités, qui n'a pas beaucoup d'ambition, sinon celle de pouvoir les identifier, ce qui n'était pas toujours si évident, parce qu'ils sont quand même pour la plupart bien oubliés, même si au milieu on peut trouver Hegel et Schlegel, par exemple. Mais donc vous avez la liste avec au moins la date de naissance, la date de mort, et dans la plupart des cas, mais je crois que je l'ai oublié pour l'un d'entre eux, dans la plupart des cas, quelques-uns de leurs travaux, un ou deux de leurs travaux les plus fameux à l'époque. Il y en a au moins un pour lequel j'ai des doutes quant à l'identification, mais pour les autres, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, dans cette liste-là, 3 savants français décédés, Anquetil du Perron, Champollion et le baron Eckstein. Le message de Jules Souris dans son rapport est donc très clair. À part lui, c'est sous-entendu, à part lui, il n'y a personne qui ait fait dignement de l'histoire des religions en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il est... Au-dessus de la mêlée, dans cette liste de 54 savants, au-dessus de la mêlée trône Max Müller, un Allemand donc, bien sûr, un des rares qui restait célèbre aujourd'hui, un Allemand installé en Angleterre à cette époque déjà, et de fait, les Allemands se taillent la part du lion dans la liste. Si je compte comme Allemand Max Müller, qui pourrait aussi revendiquer au titre d'anglais, on compte 41 savants allemands sur les 54 cités. Souris, évidemment, veut faire étalage de sa science, montrer qu'il connaît parfaitement la discipline, en admettant que ce soit une discipline, et il balaie le monde entier. Il cite aussi un savant belge, un américain, un danois, un russe, 2 hollandais, un anglais, hors de Max Müller. Je ne suis pas absolument certain qu'il ait lu tous ces auteurs. Ainsi, vous le verrez dans le détail en reprenant, si vous le voulez, le petit dictionnaire, mais il se trompe à propos d'Armin van Berry Et on peut se demander s'il ne confond pas les deux Lipsius, parce que quand il y a deux savants du même nom, normalement, ils donnent le prénom. Là, ils ne le donnent pas. Les dates ne permettent pas de savoir de qui ils parlent. Donc, bon. Alors, continuons avec le rapport de Jules Souris. Les domaines abordés par tous ces savants qu'il cite sont extrêmement variés. Il y a toutes les études orientales, de la syriologie à l'égyptologie, en passant par l'iranologie, etc., etc. Donc, toutes les études orientales, l'exégèse, les études sur l'origine du christianisme, ou les origines du christianisme, avec en particulier l'école de Tübingen, ce qu'il appelle l'école de Tübingen, le folklore, et il cite des savants protestants, juifs, catholiques, libres penseurs. On note tout de même une conception de l'histoire des religions, s'entend, qui accorde un grand rôle aux philosophes. C'est la raison pour laquelle il cite Hegel et Schelling, qui ont évidemment parlé, entre autres, de la religion. Et surtout, il accorde une grande importance, et il récupère, disons, au service de son discours, un certain nombre de savants qu'on ne s'attendrait pas à y trouver, parce que ce sont les savants qui se sont occupés de psychologie, hein, et qui donc ont abordé la question de la religion par le biais de la psychologie. Et là, j'ai noté, et j'ai soigneusement essayé, je ne dis pas que je n'ai pas fait d'oubli, mais j'ai soigneusement essayé de noter ces titres dans les titres que vous avez dans mon petit dictionnaire, lorsque vous aviez un titre qui mentionnait le mot ou le concept de psychologie. Et donc, vous le verrez, mais ça concerne des savants comme Bastian, Drobisch, Erdmann, Lazarus, Prichard, Steintal, Weitz, Werner... Autant de savants qu'a priori on ne s'attendrait pas forcément à trouver dans un exposé général sur l'histoire des religions. Le texte même de Souris met d'ailleurs en avant un concept qui lui est très cher et qu'il développera par la suite, qui est celui de psychologie des peuples. Hein, quand Souris parle de psychologie et quand il en parlera dans les années à venir de plus en plus, ça sera à la fois l'hérédité psychologique et la psychologie des peuples. Hein. Dans cette liste impressionnante, on est également surpris par l'absence d'un certain nombre de noms. Alors, du côté allemand, alors, c'est un petit jeu auquel on peut se livrer. J'ai oublié de préciser au début, pour terminer ma captatio benevolentiae, que je suis moi-même médiéviste et que par conséquent, je m'aventure depuis cette aventure de l'EPHE dans des domaines qui sont souvent un petit peu relativement, ou qui étaient relativement éloignés des miens à l'origine. Et donc, on peut très bien, sans doute, trouver d'autres noms que ceux que je vais citer. Mais enfin, dans les absents, j'en vois au moins deux pour l'Allemagne. On ne trouve pas le nom de celui qui a sans doute été le ou l'un des mythologues, entre guillemets, les plus influents du XIXe siècle, à savoir Georg Friedrich Kreutzer, mort en 1858, qui avait publié entre 1810 et 1812 une somme célèbre en 10 volumes, Religions de l'Antiquité, considérées principalement dans leur forme symbolique et mythologique. Et je donne un titre en français, car cet ouvrage avait été intégralement traduit en français entre 1825 et 1851 par Joseph Daniel Guignot, professeur au Collège de France par la suite, l'homme qui avait en fait remplacé Michelet sur sa chaire du Collège de France à la fin des années 50, au début des années 60. On peut s'interroger sur les raisons de cet oubli. Je pense, sans avoir de certitude là non plus absolue, je pense que l'ouvrage apparaît trop romantique à Souris, c'est-à-dire pas assez scientifique, et peut-être en même temps aussi trop connu pour être qu'il soit nécessaire de rappeler son existence, puisqu'ici, Souris veut faire étalage de sa connaissance dans des domaines très pointus. De la même façon, il ne cite pas une étude monumentale de Joseph Goerus, La mystique divine, et je donne encore le titre de la traduction française, La mystique divine, naturelle et diabolique, Die christliche Mystik, 1836-42, qui avait été traduite en français par Charles Sainte-Foy en 1854-55. Je pense que les raisons sont à peu près les mêmes que pour Kreutzer. Souris a raison de privilégier l'Allemagne, évidemment, comme lieu par excellence d'une étude critique des systèmes religieux à son époque, mais enfin, on peut quand même s'étonner de ne pas trouver un certain nombre de savants français. Je noterai quelques absences qui sont très étonnantes tout de même. Absence d'Alfred Maury, successeur de Guignot au Collège de France, et qui joue un rôle fondamental dans l'analyse des phénomènes religieux, en particulier du mysticisme, par la psychologie et la pathologie psychologique, si je puis dire. Absence d'une immense figure, celle du linguiste Michel Bréal. Absence du pasteur protestant Albert Réville, mais enfin, dans ce dernier cas, on comprend bien, c'est son principal adversaire sur la chaire, donc il ne va pas lui donner un crédit en le mentionnant. Et puis, absence de deux noms incontournables, Eugène Burnouf, mort en 1852, qu'on a parfois qualifié comme le père des études bouddhiques en Occident, et absence d'un des élèves de Burnouf, Ernest Renan, dont Soury avait lui-même été l'élève. Mais si on reprend cette liste, Maury, Bréal, Burnouf, Renan, tous ont été, ou sont, pour 3 sur 4, au moment où Soury écrit, professeur au Collège de France. Renan en est même à ce moment-là l'administrateur. Donc en taisant leurs noms et leurs travaux, Soury entend sans doute suggérer que l'histoire des religions n'est pas traitée en tant que telle dans cette maison et que, évidemment, c'est la condition sine qua non pour qu'il soit ensuite recruté sur cette chaire qu'il convoite. La suite de rapports de Soury insiste sur la nécessité de ne pas choisir un spécialiste érudit dans telle ou telle matière, un égyptologue, un assyriologue ou autre, mais de bien choisir un esprit capable d'embrasser toutes les disciplines. C'est évidemment à lui qu'il pense. Quand il écrit, par exemple, « La qualité maîtresse d'un professeur d'histoire comparée des religions serait donc surtout la faculté d'abstraire et de généraliser. La culture philosophique, qui est précisément exclusive de tout système dogmatique, serait ainsi la meilleure préparation. » Ça fait un peu sourire d'entendre un Jules Soury dire qu'il est hors de tout système dogmatique, mais je passe là-dessus. Donc cette capacité, cette culture, serait la meilleure préparation à ce genre d'études, unie toutefois à une forte éducation critique et historique, philologique et archéologique. Et de fait, la fin du rapport entend promouvoir, je crois que c'est le dernier paragraphe, entend promouvoir un savant philosophe capable de découvrir ce que Soury appelle les lois de la religion, parce que, dit-il, la connaissance scientifique de la religion dissipera les illusions que celle-ci entretient toujours. C'est évidemment un plaidoyer pro domo de l'auteur de Jésus et les Évangiles. Alors, quelques mots maintenant sur le second rapport. Celui qui a donc pour titre « Note sur l'utilité de la représentation de l'histoire des religions », etc. On a ici un rapport très très différent de celui de Soury, en particulier parce qu'il ne cite que deux noms, et ce sont deux noms de savants français, Champollion et, cette fois-ci, Burnouf. Son auteur défend, lui aussi, une histoire « critique », entre guillemets, et il souhaiterait, dit-il, idéalement, la création de deux chaires, une pour les religions sémitiques, l'autre pour les religions indo-européennes. Cet auteur est au fait des textes récemment publiés en faveur d'un enseignement critique et non confessionnel de l'histoire des religions, et il cite en particulier des articles très récents. Vous l'avez à la page, j'ai identifié les articles en note de bas de page, à la page 3. Il cite des articles très récents de Maurice Verne et de Littré, le Littré du dictionnaire et le positiviste, disciple d'Auguste Comte. Il connaît la situation des universités européennes, et il pense que la France doit rattraper son retard en la matière, matière d'histoire des religions, sur l'Allemagne, sur les Pays-Bas et sur la Suisse. C'est un rapport qui est clairement favorable, comme le dit la conclusion, à la création de cette chaire, mais qui laisse les choses relativement ouvertes, même si la description qui est faite ici pourrait tout à fait convenir à Soury. Est-ce qu'on peut tenter d'identifier l'auteur ? Enfin, on peut toujours tenter, mais est-ce qu'on peut y arriver ? C'est ça la vraie question. Alors, je donne quelques arguments dont je dois dire que, après un premier mouvement d'enthousiasme, je ne suis pas convaincu d'avoir la réponse définitive. Mais, alors, un rapport avait été demandé à Soury, donc à quelqu'un qui n'était pas au Collège de France, pour une chaire du Collège de France, pour les raisons que l'on a vues, Gambetta et Paul Bert voulant créer cette espèce de machine de guerre anticléricale. Il ne me semble pas absurde de penser que l'autre rapport a peut-être quand même été demandé à un professeur du Collège de France. Peut-être peut-on interpréter ainsi cette phrase que vous avez au début du rapport et qui dit « Toutefois, l'étude des religions n'a été jusqu'à présent traitée chez nous que d'une façon incidente et secondaire. » Alors ce « chez nous » peut désigner le Collège de France, mais il peut désigner aussi la France en général, ou bien les deux à la fois. C'est tout le problème. Par ailleurs, la prétention à établir un véritable plan de cours, et vous l'avez ici à la page 2, religion sémitique, tous les sujets qu'il faudra traiter, religion indo-européenne, tous les sujets qu'il faudra traiter. Donc cette prétention à établir un véritable plan de cours pour le futur professeur me semble, mais ça n'est pas du tout une certitude à 100%, donc je dis « me semble », devoir émaner quand même plutôt, vraisemblablement, d'un professeur de la maison. Par ailleurs, je note que l'auteur du rapport mentionne, je cite, « le Moyen-Âge européen aux côtés des grandes civilisations, de l'Antiquité et de l'Orient, et qu'il considère l'histoire littéraire, entre guillemets, comme un champ disciplinaire à part entière, à côté de deux autres champs qu'il cite, qui sont l'histoire de la philosophie et, bien entendu ici, l'histoire des religions. Et enfin, dernier point, dans son programme d'études, cet auteur, ce rapporteur, n'oublie pas, je cite, « la mythologie des Slaves, des Germains scandinaves et des Celtes ». Alors, tous ces éléments me semblent pouvoir aller vers un même auteur, si l'on admet en tout cas qu'il est professeur au Collège de France, et en reprenant la liste des professeurs du Collège de France, mais même sans la reprendre, en particulier Moyen-Âge européen et histoire littéraire, il me semble que tout cela converge vers Gaston Paris. La comparaison, alors évidemment, le travail auquel je me suis livré quand même, c'est comparer l'écriture du rapporteur et celle de Gaston Paris. Et c'est là ma grande déception. La comparaison, mais pas totale non plus, la comparaison entre l'écriture de l'auteur du rapport et celle de notre célèbre philologue et historien des lettres et du Moyen-Âge, Gaston Paris, le médiéviste le plus célèbre de son temps, cette comparaison n'est pas vraiment concluante. Il y a quelques traits communs. Mais alors j'ai aussi fait j'ai aussi fait un petit exercice avec des amis graphologues, on peut dire, ou plus savants que moi en cette matière, qui sont assez dubitatifs, mais qui n'excluent pas totalement qu'il puisse s'agir du même auteur. Incontestablement, les écritures sont relativement différentes, mais on a un certain nombre de particularités pour certaines lettres qui se retrouvent à l'identique dans des textes de Gaston Paris que j'avais pour l'année 1878, donc très proche, et puis pour ce rapport de 1879. Donc je dirais simplement que je pense vraiment, d'après le contenu avant tout, qu'il faut vraiment prendre en compte cette hypothèse. Et après tout, Gaston Paris a très bien pu dicter son rapport à un secrétaire, à son épouse, à je ne sais qui. Donc des recherches ultérieures permettront peut-être d'avoir le fin mot de l'affaire, je l'espère. Il faudrait en particulier lire et retranscrire une lettre de Jules Souris à Gaston Paris, dont je connais l'existence mais que je n'ai pas encore pu lire, qui est à la Bibliothèque nationale, qui est une lettre qui est écrite peu de temps après les événements et où Jules Souris fait allusion aux événements. Donc il est possible qu'il fasse allusion à un rapport qu'aurait écrit Gaston Paris, je ne sais pas. Mais ça, je n'en sais encore rien. Alors maintenant, après avoir examiné brièvement ces deux rapports, quelques mots sur le résultat, sur l'évolution ultérieure de Souris, de Réville, et sur ce que cette élection a signifié en termes de victoire, concrètement, de victoire du protestantisme libéral dans l'enseignement de l'histoire des religions dans la France de la fin du XIXe siècle. En effet, tous les efforts déployés par Paul Bert et par Gambetta en faveur de Jules Souris sont restés vains. Au début de l'année 1880, c'est un pasteur, Albert Réville, représentant donc d'un protestantisme libéral, il a été longtemps pasteur de la communauté française à Rotterdam. C'est donc ce pasteur Albert Réville, qui a déjà beaucoup écrit, qui est désigné, non pas élu, mais désigné pour occuper la chaire. Il va la conserver donc 26 ans. Souris ne s'en est jamais remis et il fait allusion à cet échec, de ce qu'il appelle, à ce vol de ce qu'il appelle sa chaire, à plusieurs reprises dans sa correspondance. Il considère cela comme un affront et il continue à parler de sa chaire. Mais il a eu une compensation. En effet, en novembre 1881, alors que Gambetta, donc ses soutiens les plus proches, arrivent vraiment au sommet du pouvoir, c'est-à-dire que Gambetta, en novembre 1881, devient président du Conseil et Paul Bert devient ministre de l'Instruction publique. On est en novembre 1881 et quelques jours plus tard, grâce à Paul Bert, quelques jours plus tard, Jules Souris obtient un poste de maître de conférence à la 4e section de l'EPHE, avec un intitulé qui n'a plus rien à voir avec l'histoire des religions, puisque l'intitulé, c'est, intitulé sur mesure, « Histoire des doctrines contemporaines de psychologie physiologique ». L'histoire des religions s'éloigne, pour Souris, au sens strict en tout cas, comme le montrent d'ailleurs ses publications à partir de cette époque, la plus importante étant un gros ouvrage qui a un certain succès à l'époque, sur le système nerveux central, structure et fonctions, histoire critique des théories et des doctrines. On est en 1899. Ses recherches sur l'hérédité psychologique s'accompagnent d'un engagement nationaliste et antisémite grandissant, qui apparaît très bien dans son livre autobiographique « Campagne nationaliste », 1902, dans toute une série de publications de l'Action française, et bien entendu aussi durant l'affaire Dreyfus, où à la différence de beaucoup de ses collègues de l'EPHE, et je pense en particulier à des gens comme Gabriel, et qui sont aussi des gens du Collège de France, comme Gabriel Monod, comme Gaston Paris, pour certains d'entre eux en tout cas, comme Arthur Giry, comme Jean Psicari, comme Albert Réville lui-même, comme Sylvain Lévy, etc., eh bien évidemment, Souris sera Dreyfusard, c'est lui qui dit par exemple « Je sais que Dreyfus est coupable parce qu'il est juif ». À l'EPHE, néanmoins, Souris connaît un succès grandissant qui n'a jamais sans doute compensé son échec au Collège de France. Il devient directeur d'études adjoint en 1896 et il accède enfin au rang de directeur d'études à part entière en 1898. Il faut noter qu'avant cette date, son nom ne figurait ni dans les annuaires, ni sur les affiches de la 4e section. Et de fait, les enseignants de la 4e section avaient très mal pris cette nomination autoritaire, comparable à la nomination autoritaire sur la chaire d'histoire des religions du Collège de France un an et demi plus tôt. Donc les enseignants avaient très mal pris cette nomination autoritaire de Paul Bert et ils avaient envoyé une pétition au ministre qui condamnait le mépris des procédures et qui suggérait d'ailleurs de rattacher Jules Souris à la 3e section, la section des sciences naturelles, où il y avait un enseignement de psychologie. Cette marginalisation au sein de l'EPHE pendant longtemps n'a pas empêché Souris d'obtenir un très franc succès dans son enseignement, au point que son séminaire est certainement l'un des séminaires les plus à la mode sur la place de Paris au début du XXe siècle. Parmi les auditeurs de Souris, on note les noms de Clémenceau, d'Anatole France, de Marcel Samba, de Barrès, qui l'a beaucoup marqué. Et Souris est sans doute le modèle d'Adrien Sixte dans le célèbre roman de Paul Bourget, Le Disciple, qui paraît en 1889. Je note enfin, pour en finir ou presque avec Souris, que ses collègues de la 4e section, ou plutôt ses relations avec les collègues de la 4e section de l'EPHE, se sont, semble-t-il, peu à peu normalisées, malgré l'affaire Dreyfus et les oppositions idéologiques, comme le montrent ses relations cordiales avec Louis Havet, président de la section, à partir de 1912. J'ai publié dans le livre des 150 ans une petite lettre qui est une invitation de Louis Havet, président de la section, à Souris pour l'inviter à dîner. Et on a la réponse de Souris qui lui explique qu'il ne pourra pas venir, mais qu'il aurait beaucoup aimé parler avec Monseigneur Duchesne, etc. etc. Bon, bien. Alors, le succès et la notoriété de Souris à partir des années 80 ne doivent pas dissimuler que le champ de l'histoire comparée des religions lui a entièrement échappé, en même temps qu'au courant républicain le plus viscéralement anticlérical et même antireligieux qui était représenté par Gambetta ou par Paul Bert. C'est donc un pasteur protestant, Albert Réville, qui occupe la chaire du Collège de France. Or, en 1886, le même Albert Réville fait partie de la douzaine de savants qui intègrent la toute nouvelle section des sciences religieuses de l'EPHE, la 5e section. Il en devient d'ailleurs immédiatement le président, ce qui confirme d'une certaine façon cette mainmise du protestantisme libéral en la personne de Réville sur l'enseignement de l'histoire des religions en France au plus haut niveau. Allons un peu plus loin, son fils, Jean Réville, mort prématurément, ce qui explique qu'il n'ait pas eu la carrière de son père. Son fils Jean Réville, donc mort prématurément en 1898 à 53 ans, son fils lui succède au Collège de France, et son fils Jean Réville avait également intégré la 5e section dès 1886, d'abord comme maître de conférence, puis ensuite comme directeur d'études. Et ce même Jean Réville, fils d'Albert, était depuis 1884 le directeur de la revue de l'histoire des religions. Donc on voit bien comment, à tous les postes stratégiques, c'est le père et le fils, en réalité, pendant plus de 20 ans, pendant presque 30 ans. Donc, quelques éléments de conclusion. J'ai encore quelques minutes. Alors, quelques éléments de conclusion que je vais beaucoup résumer. Comme je dis au début, c'est une recherche en cours, et je n'ai pas pu consulter tous les documents que j'aurais souhaité consulter, mais je vais au moins renvoyer à un certain nombre de ces documents pour en signaler l'existence, en attendant d'aller les consulter dans les mois à venir. Ceci pour peut-être bien marquer que ces rapports de présentation sont tout à fait passionnants. C'est une source extraordinaire que j'ai largement découverte. J'avais eu l'occasion d'en lire un ou deux auparavant, dont celui de Gilson, d'ailleurs, enfin de Gilson, quand il y avait un colloque Gilson. Mais c'est vraiment grâce à cette journée, et donc je vous remercie, que j'ai pu vraiment mesurer tout l'intérêt de ces rapports de présentation. Mais pour bien les comprendre, évidemment, il fallait au-delà du rapport de présentation. Et je crois qu'il y a tout un travail à faire, en particulier dans les correspondances privées, pour voir tout ce qui se dit à propos des élections autour des dates des rapports de présentation. Alors pour celui-ci, je dirais brièvement et en vrac, il y a un dossier Jules Souris aux Archives nationales dans lequel on trouve des pièces que j'ai pas encore pu examiner mais dont je connais l'existence. Il y a eu quelques travaux mais qui ne donnent pas qui font allusion aux pièces sans les retranscrire. On a une note de Paul Bert adressée à un ami dans lequel il explique, je l'ai dit tout à l'heure, que Souris lui a lu son programme. On a une lettre de souris dans laquelle il demande son soutien au ministre, au directeur de l'enseignement supérieur. On a, ce qui sera une pièce maîtresse qu'il va falloir absolument publier, on a une lettre du 20 mars 1880, donc après l'échec de Souris, qui est une lettre de Souris à Jules Ferry, qui est quasiment une lettre d'injure et de menace de Jules Souris à Jules Ferry. Et c'est une lettre dans laquelle, donc en 1880, alors qu'Albert Réville a déjà été nommé, Souris continue à parler de « ma chère hein ». On a une lettre, enfin d'autres lettres, lettres de Paul Bert en particulier. Bon, je passe le détail. Donc diverses lettres. On a la lettre des membres de la 4e section au ministre pour se plaindre de la nomination de Souris en 1881. On a une lettre de Souris à Gaston Paris, que j'ai évidemment besoin de voir pour voir s'il y a des allusions au rapport, donc qui date également de 1881. Et c'est intéressant, Souris y explique qu'il voudrait à l'EPHE qu'on crée une section des sciences philosophiques et sociologiques qui serait plus adaptée à ce qu'il fait. Et on a aussi une lettre de Souris à Anatole France, vieille de plus de 10 ans, c'est-à-dire 1891, par rapport aux événements, dans laquelle il revient sur les événements et où il manifeste encore 10 ans après une profonde amertume. Et puis à tous ces documents, il faut ajouter des correspondances très intéressantes, dont en particulier la correspondance de Renan et d'Albert Réville, que j'ai commencé à lire. Alors, correspondance dans un sens seulement, on a tout un gros paquet de lettres d'Albert Réville à Renan. Les deux hommes étaient très amis. Hein. Donc, toute une série de lettres d'Albert Réville à Renan, et dans les lettres de 1879-80, Réville fait tout à fait allusion, plus qu'allusion, il demande son soutien à Renan, et il fait tout à fait allusion à ces événements. Et puis, malheureusement, on n'a pas l'inverse. Hein. On n'a pas conservé les lettres de Renan à Albert Réville, à ma connaissance. Peut-être qu'elles sont aujourd'hui chez quelques héritiers, mais en tout cas, on ne sait pas où elles sont. Et enfin, dernier point, et je terminerai là-dessus, on a une lettre absolument passionnante et remarquable, qui est une lettre de décembre 1879, au cœur des événements, mais avant la décision finale du ministère, qui est une lettre adressée à Max Müller par Renan. Renan, l'essentiel de la lettre est consacré à cette élection, et on a bien le sentiment que Renan considère cette élection comme quelque chose d'extrêmement important. Il écrit ceci: l'histoire de notre chaire d'histoire des religions comparées au Collège de France est déjà toute une épopée. Que sera-ce de la suite ? Toute cette histoire est peu connue et sera certainement mal comprise un jour. C'est dans cette lettre que Renan compare Souris à, c'est un peu précieux, à un ircocerf, c'est-à-dire un animal fabuleux, mythologique, qui est un composé du bouc et du cerf. Et Renan dit à Max Müller tout le bien qu'il pense d'Albert Réville, mais en même temps, il marque bien que c'est une candidature qui est loin d'être parfaite, parce que pour lui, Albert Réville, d'une part, dit-il, n'est pas dégagé de tout lien théologique ou confessionnel, il était pasteur, je le rappelle, et d'autre part, il met en valeur, si c'est ce qui est une façon de parler, les faibles compétences philologiques d'Albert Réville, qui en font un généraliste plus qu'un véritable savant. Et surtout, ce qui est le plus intéressant peut-être, Renan se fait le porte-parole de ses collègues du Collège de France. Alors, difficile de savoir dans quelle mesure il les reprend tous ou pas, mais il se fait le porte-parole de ses collèges de France en s'opposant plus ou moins sourdement à la création de cette chaire. Je cite Renan: « L'opinion du Collège, au moins officieusement, se montra décidément contraire à la création nouvelle, non que nous ne mettions en première ligne ces belles études, mais justement parce que nous pensons qu'elles doivent pénétrer toutes les chaires de littératures anciennes. L'histoire religieuse de l'Inde devant être faite par des professeurs de sanskrit, celle de la Judée par le professeur d'hébreu, et ainsi de suite. » Et en développant cette argumentation, Renan pose les bases d'une argumentation qu'il va reprendre 6 ans plus tard, en 1885, au moment de la création de la 5e section, dans le livre des 150 ans, on a publié une lettre inédite de Renan, qui est une lettre à Albert... qui est une lettre à Marcellin Berthelot, dans laquelle Renan, juste avant la création de la 5e section, s'oppose très très fermement à la création de la 5e section, en disant justement on a besoin de gens qui enseignent l'histoire des religions dans différents établissements, mais pas de façon particulière en une institution qui pourrait devenir un nid clérical. Bien. J'arrête là. Ce que je dirais simplement pour terminer, c'est qu'on voit bien avec cet exemple final, et puis aussi l'allusion que j'ai faite à la correspondance entre Renan et Réville, on voit bien que ces rapports de présentation, quelle que soit leur forme, je crois, doivent être replacés dans un contexte beaucoup plus large et doivent être confrontés à de nombreux autres documents, parmi lesquels les correspondances privées, qui évidemment occupent une place de premier rang, mais qui sont très souvent inédites. Et donc c'est un gros travail, bien sûr, à mener. Je vous remercie.
Merci. Merci, c'est un cas passionnant. Mais deux remarques. Faut-il parler de rapports de présentation ? Ce ne sont pas des rapports de présentation. Et faut-il parler d'élection ? Non.
Non, il n'y a pas d'élection.
Vous avez employé le mot élection.
Ça, c'est un lapsus.
Il n'y a pas d'élection. Je vous rappelle que selon les statuts, justement, du prince président, de la présidence dictatoriale de 1852, qui sont toujours opératoires sous la Troisième République, le président de la République peut créer une chaire au Collège de France sans consulter l'Assemblée des professeurs. C'est donc de cela qu'il s'agit.
Absolument. Là,
ce
oui,
sont
fait.
Des rapports.
Si j'ai d'élection,
ce sont des rapports. Ce sont des notes, d'ailleurs. Alors, des notes au ministre, notes sur l'utilité. Ce sont des notes au ministre.
Oui, mais
le titre est,
oui,
il est là.
Bien sûr.
Notes au ministre.
Mais en même temps, le contenu est à peu près exactement comparable à un rapport de présentation.
C'est
l'équivalent du rapport de présentation,
mais fait
pour le ministre et non pas pour les collègues du Collège de France.
Pour l'encourager à la création d'une nouvelle chaire. Et alors, le Collège de France, évidemment, toujours assez ambivalent dans ces cas-là, puisqu'on lui donne une chaire de plus, puisqu'une fois qu'elle est dans le budget. Au prochain tour, c'est l'Assemblée des professeurs qui nomme. Donc c'est une chaire ajoutée au nombre des professeurs. Et en même temps, il n'est pas consulté. Donc la protestation de Renan, la lettre de Renan à Müller, c'est « on n'est pas consulté, c'est le fait du prince ». Comme je le rappelais tout à l'heure, il se trouve que le fait du prince a parfois été éclairé. Vous citiez Gaston Paris. Paulin Paris a été nommé par le ministre sans consulter les professeurs. Création d'une chaire, la chaire d'épigraphie, c'est la même chose. Elle est créée par le ministre sans consulter les professeurs. Donc ça a parfois été des choix éclairés. Et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que, aussi dans la petite introduction que je faisais, j'évoquais 1903-1905, le moment de la séparation, on observe une fois de plus que c'est la question cléricale qui a fait, comment dire, dérailler les établissements du haut enseignement. Je ne connaissais pas ce cas-là, mais je connais bien les cas de 1903-1905 où le rapport entre la politique et la politique scientifique est...
Et... Alors, je suis passé rapidement sur le fait que, je ne l'ai pas dit, mais qu'il y a toute une série de discussions à la Chambre, au Sénat, qui sont des discussions très, très animées, évidemment. Et Jules Ferry n'a pas pu prendre Jules Souris, parce que la réputation d'anticléricalisme et d'anti-religiosité de Souris est telle, à ce moment-là, que
ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible.
C'est pas possible. Et c'est bien avant le petit père Combes.
Oui, tout à fait.
Mais c'est en effet intéressant, et l'hypothèse que vous faites, c'est vrai que le rapport de... On a pu demander un second rapport à un professeur de la maison qui pouvait être favorable à une création, mais sans titulaire désigné.
Et donc c'est vrai que l'une des choses que je veux voir, c'est en particulier, entre autres, si lorsqu'il y a eu l'année suivante la nomination autoritaire aussi de Jules Souris à l'EPHE, il y a donc eu cette pétition, en quelque sorte, d'une partie au moins des directeurs d'études de la 4e section. Et je voudrais voir si Gaston Paris signe cette pétition ou pas, par exemple.
Ah, oui.
Mais je le verrai, mais il faut
Au Collège de France, il n'y a jamais eu de... protestation lorsque le gouvernement ou le président de la République nommait un professeur sans consultation.
Et là, c'est très fort parce qu'on ne le met pas dans les annuaires et on ne le met pas sur les affiches pendant 20 ans.
Éric.